Le débat du jour, Guillaume Nodin.
Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le débat du jour. Jacques Chirac repose désormais au cimetière du Montparnasse à Paris. L'ancien président de la République a été inhumé en début d'après-midi après un week-end d'hommage populaire, officiel, national, international. Et pourtant, au cinquième jour après sa mort, et malgré les innombrables témoignages, il est bien difficile aujourd'hui de définir ce qu'est ou ce qu'était le chiracisme, tant ils ont été et sont encore nombreux à s'en réclamer, étant le principal intéressé à su parler tour à tour à la plupart des Français et embrasser l'air du temps, voire même le devancer dans certains cas. Jacques Chirac laisse-t-il un héritage, et en particulier un héritage politique? C'est la question du jour. Et pour en parler, deux invités sont avec nous en studio. Serge Berstein, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes historien, spécialiste de l'histoire politique du XXe siècle et professeur émérite d'histoire contemporaine à l'Institut d'études politiques de Paris. Vous signez par ailleurs un texte intitulé « L'adieu à De Gaulle » dans le hors-série spécial Jacques Chirac du magazine L'Histoire. Et Olivier Roucan, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes enseignant, chercheur en droit constitutionnel à l'Institut supérieur de management public et politique. Et vous êtes aussi auteur du livre « En finir avec le président », c'est aux éditions François Bourin. C'est difficile à cerner le chiracisme, parce que cela a beaucoup évolué avec le temps, parfois avec des allers-retours, il faut quand même le dire, sur l'Europe, le libéralisme économique et même sur le gaullisme. Comment vous le définiriez, vous, le chiracisme, Serge Berstein?
Eh bien, je le définirais comme une longue période de transition qui permet de passer du gaullisme du général de Gaulle et de Georges Pompidou, qui était à peu près clairement défini, à quelque chose de beaucoup plus flou, de beaucoup plus souple, qui a beaucoup varié au cours des années et même des décennies. Et par conséquent, si on peut comprendre ces variations, après tout, le temps passe, les problèmes changent, ce qui était valable 10 ans plus tôt ne l'est plus au moment présent. Malgré tout cela, on n'arrive pas vraiment à définir ce que serait un chiracisme et on n'arrive pas vraiment à voir de quoi il se compose, en tout cas sur le long terme, et est-ce que c'est vraiment un héritage à prendre et pourquoi faire?
Olivier Roucan, souplesse idéologique et puis un peu de zigzag aussi, il faut bien le dire, vous êtes d'accord avec cette analyse?
Oui, oui, je pense que c'est de l'ordre du constat en fait, en effet. Et je, en écoutant Serge Berstein, je me disais, ce n'est pas le gaullisme, le chiracisme. C'est-à-dire que, à l'évidence, il y avait déjà eu une inflexion avec Georges Pompidou, notamment sur une droitisation quand même du contenu donné. Et je me rappelle d'un ouvrage dans les années 90, début 2000, mais plutôt fin des années 90, d'Andrew Knapp, qui disait qu'avec le pompidolisme, on allait déjà vers le néo-gaullisme. Et Jacques Chirac, là, se situe alors déjà davantage dans le pompidolisme, mais le dépasse largement, alors du fait de cette longévité, du fait de son arrivée au pouvoir dans une période très néolibérale sur le plan économique, qui fait qu'il a pu sembler évoluer vraiment et passer d'un soi-disant travaillisme à la française à un néolibéralisme pour revenir à une sorte de nini mitterrandien. Et justement, quand on le compare à François Mitterrand, et certains s'interrogeaient déjà sur le point de cohérence chez François Mitterrand, mais on trouvait quand même une réponse. On disait, il y avait l'engagement européen, notamment. Pour Jacques Chirac, la réponse est pour l'heure difficile à trouver.
Jacques Chirac s'est toujours revendiqué de l'héritage gaulliste. Donc vous disiez, Serge Berstein, on peut le définir peut-être un peu plus précisément. Aujourd'hui, dans toute la classe politique française, chacun a toujours au moins une occasion de se réclamer du gaullisme. Ça va de la gauche à la droite. Jacques Chirac était-il le plus gaulliste de ses contemporains en politique? Est-ce qu'il pouvait revendiquer cet héritage?
Certainement pas. Certainement pas, dans la mesure où le gaullisme a représenté des éléments divers depuis le gaullisme de la résistance avec les compagnons et tout ce que ça représentait pour la place de la France dans le monde. D'autres pouvaient se revendiquer du gaullisme d'opposition de la 4e République, où il s'agissait de créer un État fort face à au problème de la 4e République. Et tous ces gens-là sont animés d'une volonté importante au cours de problèmes importants. Or, Jacques Chirac apparaît comme tout à fait étranger à ces deux milieux, et le gaullisme de guerre et le gaullisme d'opposition. Au fond, il entre en politique par son métier d'administrateur. Et il est, à mon sens, le poisson pilote d'une nouvelle génération politique qui naît de l'ENA, qui naît des diplômes, qui naît des cabinets ministériels et qui va constituer désormais le gros, le noyau dur du monde politique et à gauche comme à droite d'ailleurs. C'est par conséquent, non, ce n'est plus le gaullisme.
C'est le premier sorti du moule de l'énarque qui se lance en politique, Olivier Roucan, Jacques Chirac.
Le premier, en tous les cas, il incarne bien et au plus haut niveau cette évolution de notre sociologie des élites et de leur institutionnalisation, c'est-à-dire que cette fabrique à la fois de droite et de gauche autour d'une école, mais surtout des réseaux qui se constituent et qui ne sont plus du tout les réseaux du gaullisme originel. Mais alors je dirais pas que quelque part Georges Pompidou avait déjà un peu un profil comparable, mais dans tous les cas, sur le plan, je voudrais rajouter une chose sur le plan institutionnel, où là on voit qu'il tourne la page d'une pratique gaullienne des institutions sur les points majeurs que sont l'exercice des pouvoirs présidentiels.
Mais vous me devancez, Olivier Roucan, j'allais vous relancer là-dessus, mais tous les deux, allez-y. Oui. Oui, au plan institutionnel, le quinquennat, la cohabitation, est-ce qu'il a largement modifié les pratiques de la Ve République, Serge Bernstein?
Alors oui, à mon avis, oui, incontestablement. Si on parle de la cohabitation, on est très loin du gaullisme. On ne voit pas du tout le général de Gaulle.
Il serait pas resté, en fait, tout simplement, s'il avait été battu aux élections, le général de Gaulle.
Bien entendu. On a vu qu'un référendum sur une question qui n'était quand même peut-être pas au total central, l'a conduit à abandonner le pouvoir. Et par conséquent, le moindre désaveu signifiait son retrait de la vie politique. Or, Jacques Chirac va, de ce point de vue, assez largement se trouver en contradiction avec cette idée. L'homme qui suit à l'époque les idées gaulliennes, c'est Raymond Barre. Raymond Barre qui dit, si on veut respecter le vote des électeurs aux élections de 1986 qui ont donné la majorité à la droite, il faut que tous les dirigeants de la droite refusent de prendre le poste de Premier ministre tant que François Mitterrand restera à l'Élysée. Autrement dit, recommencer ce qui s'était produit jadis sous la Troisième République avec le cartel des gauches. Or, Jacques Chirac ne suit absolument pas ce point de vue, qui est effectivement gaullien par définition. Et par conséquent, il va accepter, avec l'idée qu'il l'emportera parce qu'il a la majorité, la cohabitation, et il va se laisser prendre au jeu de la cohabitation et à l'habileté stratégique de François Mitterrand.
Olivier Roucan, je vous ai coupé. Qu'est-ce que vous voulez
compléter? Non, mais de la même manière, pour prolonger, c'est bien Raymond Barre aussi qui s'opposera farouchement à l'adoption du quinquennat. Jacques Chirac n'y était pas favorable, et puis il a dû céder aux pressions. Mais
je rappelle que ça s'est imposé quand Lionel Jospin était premier ministre pendant la deuxième cohabitation.
Pendant la cohabitation. Voilà. Alors il, voyez, le président a des pouvoirs d'exception sous la Ve République, que sont notamment le droit de dissolution et le référendum. Et Jacques Chirac, sur ses deux pouvoirs, a eu une attitude qui n'était pas du tout gaullienne. La dissolution, donc, c'est une dissolution tactique. Il n'y a pas de crise au moment où Jacques Chirac décide de dissoudre. Il dissout à l'anglaise, en quelque sorte. Et en plus, il se plante, entre guillemets, puisqu'il obtient le contraire de ce qu'il voulait, c'est-à-dire une majorité opposée. Ensuite, il s'engage dans une cohabitation de 5 ans. Et c'est toute la différence avec François Mitterrand. Une cohabitation pour Jacques Chirac à son initiative est pour 5 ans trop longue, qui finit par abîmer la fonction. Et sur le référendum, il le perd donc en mai 2005 sur l'Union européenne. Donc là aussi, c'est quand même un bilan qui est assez défavorable. Et enfin, il y a le quinquennat. Donc un autre référendum est différent, constitutionnel, et qu'il adopte finalement sous la pression, notamment de son vieil ennemi intime, parce que vous avez parlé de Lionel Jospin, mais il y a quelqu'un qui a joué un rôle important dans le quinquennat, c'est Valéry Giscard d'Estaing, qui à l'époque quand même...
avait beaucoup poussé pour le quinquennat.
Pour le quinquennat. Mmh. Et là, on a eu un Jacques Chirac sur la défensive, qui a fini par accepter de réduire de 2 ans la durée du mandat présidentiel. Or, dans la matrice gaullienne, il me semble que la différence de la durée de mandat entre le président et les députés est déterminante. Mmh. Dans cette cinquième république.
Oui, de Gaulle l'a d'ailleurs théorisé. Mmh. Hein, il a dit, puisque dans ses entretiens avec Perfitte, il évoque le problème et rejette complètement l'idée d'une possible cohabitation. Hein, c'est très clair dans les propos qu'a rapporté Alain Perfitte. Enfin, pour revenir sur Chirac et le gaullisme, au fond, il entre dans la vraie politique en étranglant les gaullistes. Puisque
oui, au Jacques Chaban-Delmas en particulier,
bien sûr, hein, il savonne la planche de Jacques Chaban-Delmas et par conséquent il pousse en avant Valéry Giscard d'Estaing qui avait pris ses distances avec le général de Gaulle avant son départ. Donc dire de Chirac qu'il est l'héritier du gaullisme, c'est aller un peu vite en besogne.
Qui dit héritage dit aussi évidemment héritiers. Alors il y avait ceux qu'on avait appelés les bébés Chirac, hein, c'était avant l'élection présidentielle. Qui sont-ils? Que font-ils? Que sont-ils devenus, Olivier Roucan? Est-ce qu'il y a des Chiraciens officiels aujourd'hui? Enfin,
voilà, d'abord, vous avez des Chiraciens. De
Jean-Louis Debré.
Oui, voilà, Jean-Louis Debré. On voit bien qu'Alain Juppé, quand même, garde une fidélité, je pense, personnelle et quelque part aussi idéale à Jacques Chirac. Bon, ensuite, il y a une autre génération qui est arrivée plus tard. Notamment, on pense beaucoup à François Baroin, quand même, qui est à la tête de l'association en plus des maires de France. Et on se rappelle bien que Jacques Chirac construit sa victoire de 2002 en s'appuyant beaucoup à partir de 2001 sur la victoire des municipales et les maires. Donc s'il doit y avoir quelques symboles, là on en a un. Donc François Baroin, au-delà on voit bien, il y a aussi Jacob,
hein, Christian
Jacob, qui a une position qui reste importante à la tête du groupe des députés. Mais on est plus sur un attachement personnel et générationnel. On parle pas là de partis politiques, vous voyez. Mm-hmm. Parce que sur le plan des partis politiques, on peut pas dire qu'il y a un héritage.
Le problème est de savoir héritier de quoi et de qui. Parce que le problème, c'est que Jacques Chirac, après avoir assez largement pris ses distances avec le gaullisme, a peu à peu créé autour de lui une sorte de fidélité, et il a réuni ce qu'on peut appeler le centre droit et une partie de la droite. Or, dans le paysage politique actuel, ce parti ou cette tendance politique, d'une part, a considérablement perdu son audience, et d'autre part, se trouve face à un président de la République qui, en déclarant qu'il est ni de droite ni de gauche, mais en menant une politique dont la majorité des éléments provient effectivement de ce centre droit, prive au fond d'éventuels héritiers du terrain sur lequel il pourrait s'implanter. Donc, faut-il vraiment chercher un héritier Et pour qui, pourquoi?
Jacques Chirac, et vous l'évoquiez, Serge Bernstein, c'est aussi celui qui avait réussi à prendre la tête de la droite, du moins une partie, s'il est possible de mettre la droite d'accord dans ce pays, historiquement. Mais il avait fini, à force de bataille, par construire l'UMP, un grand parti de la droite et du centre. Ça non plus, il n'en reste pas grand-chose, Olivier Roucan.
Il a jamais vraiment réussi, justement, à mettre la droite d'accord, comme vous dites. C'est-à-dire, y compris l'UMP, sa durée de vie n'a pas été extraordinaire, hein, puisque cela se fait au moment de sa réélection, un peu avant, un peu après, et assez tôt, à nouveau, il y a cette rivalité, cette montée en puissance de Nicolas Sarkozy pendant son second mandat, et des clivages très forts, on se le rappelle, entre Dominique de Villepin, donc les Chiraciens, justement, hein, c'est un nom qu'on peut citer aussi comme héritier personnel, hein, on l'a oublié à tort, mais c'est cette rivalité très forte, et le sarkozysme, pour le coup, tourne la page véritablement du chiracisme, alors je dirais même pas idéologique, mais programmatique. Et efface quand même beaucoup d'une possibilité d'héritage sur le plan, encore une fois, partidaire.
Il faut s'en souvenir, Serge Bernstein, à l'époque où Nicolas Sarkozy est élu président de la République. Alors si aujourd'hui Jacques Chirac est très populaire, à l'époque, c'était pas le cas. On disait qu'il fallait relancer un petit peu. C'est peut-être sans doute pour ça que Nicolas Sarkozy a réussi à s'imposer, par son dynamisme.
Absolument. Absolument. Il y a un problème, effectivement, en particulier avec le second mandat de Jacques Chirac, avec le quinquennat de Jacques Chirac.
La maladie aussi, il faut
qui
le dire.
Il y a la maladie de l'homme. Et il y a aussi le fait que il tente, dès le début de ce quinquennat, de prendre quelques distances et de se présenter en père de la nation, plutôt qu'en dirigeant véritable de la majorité. Alors il laisse faire effectivement les premiers ministres, les deux premiers ministres de son quinquennat, hein, s'effaçant quand même largement. La maladie y est sans doute pour quelque chose. Et puis peut-être aussi la fatigue des combats, alors que il sait bien qu'il n'a plus rien de plus à espérer que ce qu'il a obtenu jusque-là.
Quand vous parlez de père de la nation, vous faites évidemment référence au deuxième tour face à Jean-Marie Le Pen. Bien sûr, il faut quand même le dire, il y a le bruit, l'odeur, c'est une déclaration qui a été beaucoup reprochée à Jacques Chirac, et sans doute avec quelques raisons, mais c'est aussi le barrage à l'extrême droite en 2002. Et ensuite, ça s'est même prolongé là sur la cérémonie. La famille Chirac n'a pas souhaité la présence de Marine Le Pen. Est-ce que ça, c'est peut-être pas l'héritage de Jacques Chirac, qui n'a été repris par personne d'ailleurs, le fait de faire barrage au Front National et à l'extrême droite, Olivier Roucan?
Dans un premier temps, il y a eu des personnalités issues du monde de la droite qui ont tout de suite été beaucoup plus claires sur cette question. Ensuite, Jacques Chirac a imposé à la fin des années 90 cette digue. D'ailleurs, largement... alors je ne sais pas si on peut dire à l'initiative, mais en grande connivence avec Alain Juppé, qui là-dessus n'a jamais transigé lui non plus. Et pour le coup, c'est vrai qu'il laisse cette marque et d'une intransigeance vis-à-vis de tout élément xénophobe, raciste dans la pensée politique. Est-ce que par la suite, il n'y a pas eu aussi ferme que lui? Je pense que c'est pas tout à fait exact. On a quand même des personnalités politiques depuis qui sont sur cette ligne, donc ça ne mais c'est vrai qu'on peut le créditer largement de cet apport, mais c'est pas venu tout de suite, et il y a eu quand même quelques circonvolutions avant.
Merci beaucoup Olivier Roucan, merci beaucoup à vous Serge Bernstein d'avoir été avec nous, d'avoir participé à cette émission. Merci à toute l'équipe du Débat du Jour, Florence Ponce à la coordination et à la réalisation, aujourd'hui Valentin Vaner. Vous pouvez nous retrouver, nous réécouter, nous podcaster sur RFI.fr et sur nos applications mobiles comme RFI Pure Radio rubrique émission. Vous pouvez aussi participer au débat sur les réseaux sociaux. Le prochain débat, c'est demain, même heure, même endroit. Bonjour chez vous.